LSD, la série documentaire. Un podcast France Culture.
Dans quelques jours, faire le tour de Paris en voiture sans rencontrer un seul feu rouge, ce ne sera plus un rêve. En effet, la construction du dernier tronçon du périphérique vient de s'achever. Si tout va comme on l'espère, les automobilistes pourront l'emprunter dès la semaine prochaine. Et je vous rappelle que hier à l'Élysée, en conseil, M. Pompidou avait souligné l'intérêt de cette œuvre dont il a dit qu'elle était colossale.
24 avril 1973.
Depuis 3h30, vous pouvez faire le tour de Paris, 36 km sans feu rouge grâce au périphérique dont les 3 derniers kilomètres ont été ouverts à la circulation entre la porte d'Asnières et la porte Dauphine.
1974, Pompidou est mort. Une série documentaire de Christelle Le Polothèque et Anne Fleury.
C'est ainsi que vous pouvez désormais
les premiers doutes
aller de Lille à Marseille en passant par Paris sans croisement à la hauteur de la capitale, Jean Pézieux.
Comme Pierre Messmer, Nicole de Hautecloque, le président du Conseil de Paris, a évoqué l'ampleur du travail accompli. L'ouvrage franchit deux fois la Seine, une dizaine de voies ferrées, notamment par le pont Masséna, large comme deux fois celui de Tancarville, et dont la longueur, 500 mètres, a nécessité l'établissement de piliers et de haubans, une véritable prouesse technique qui a pu être réalisée grâce à 6000 tonnes d'acier.
Paris, Londres en une heure à peine, mais pour aller rejoindre Orly, vous mettez une heure et demie en moyenne. Ah, drôle de planète, sauvons les forêts et les arbres.
17 ans de travaux, 2 milliards de francs, 55 millions par kilomètre, vous connaissez les chiffres. On a beaucoup dit de mal du périphérique parce qu'il détruisait certains quartiers de Paris, souvent des maisons anciennes d'ailleurs, qu'il détruisait des arbres dans le bois de Boulogne par exemple, 5000 arbres, mais 17 000 nouveaux arbres ont été plantés.
En dépit des critiques, pour Pierre Messmer, l'achèvement du périphérique est un succès.
C'est donc un succès du point de vue de la circulation, au point que dès maintenant, il est préférable pour les véhicules qui veulent traverser Paris sans s'y arrêter de faire la moitié du tour de Paris plutôt que de traverser la ville du nord au sud ou de l'ouest à l'est. L'achèvement du périphérique est pour nous le début d'autres grands projets, mais c'est aussi un enseignement pour l'avenir de tout ce que nous ferons dans la région parisienne et dans la France entière.
Le journal présenté par François Foucard.
Bonsoir. Il est inutile de geindre quand on ne peut rien changer à ce qui est, par exemple, le temps. Mais quelle journée! La pluie peut avoir un certain charme, on s'en passera tout de même le plus souvent. On l'a dit et redit, les routes mouillées sont cause d'accidents. Encore faudrait-il, comme cela s'est passé près de Lyon, ne pas rouler dans une voiture qui a 20 ans d'âge, les pneus lisses, et refuser la priorité. Résultat, 3 morts, 4 blessés. Enfin, pour des millions de Français, le fait divers, heureux ou malheureux du dimanche et fête, c'est le tiercé. Il fallait jouer le 9, le 7, le 5. Voici les rapports. 3300 francs dans l'ordre et pour 3 francs. Toujours pour 3 francs et dans un ordre différent, 660 francs. Un petit tiercé.
Au printemps 73, la France s'enivre de modernité à la faveur des grands chantiers chers à son président. Le périphérique parisien, l'aéroport Charles de Gaulle et le plateau Beaubourg, futur centre Pompidou. Les Trente Glorieuses sont sur le point de s'achever, mais si l'on se fie aux archives dans lesquelles nous nous sommes plongés pour reconstituer cette année pas comme les autres, personne ne le sait encore. La France vit dans l'insouciance et le gaullisme semble éternel. 5 ans après 68, même si bien sûr de Lippe à Peugeot certains conflits grondent, le climat social s'est clairement apaisé. Même les plus durs des maoïstes marquent le pas. La gauche prolétarienne va s'autodissoudre en novembre prochain, lors de l'AG des chrysanthèmes à Versailles. En fait, tout irait pour le mieux s'il n'y avait des rumeurs circulant à bas bruit sur la maladie du président Pompidou, qui ne serait pas, comme le disent les médias, une simple grippe à répétition. Seuls quelques journaux comme Charlie Hebdo ou L'Express osent en parler ouvertement. Mais personne ne peut imaginer une mort prochaine. On sait juste qu'il a dû annuler l'inauguration du salon de l'aéronautique au Bourget et la réception prévue pour la fête des mères à l'Élysée. En ce mois de mai 73, le président, qui a pris un peu d'embonpoint depuis sa dernière grippe, s'apprête à s'envoler vers Reykjavik. Il part rencontrer le président Nixon, qui ne va pas tarder de son côté à être rattrapé par l'affaire du Watergate.
France Inter, il est 22h. Première journée des entretiens Pompidou-Nixon. Il y a quand même un point d'accord, la nécessité de poursuivre les consultations. En attendant, les deux chefs d'État ont évoqué les négociations commerciales et monétaires et surtout les conditions du maintien des troupes américaines sur le sol européen. Mais M. Pompidou avait refusé que le maintien des troupes américaines soit lié aux prochaines conversations commerciales, ce qui serait une possibilité de pression pour les États-Unis. De Reykjavik, Bernard Valette.
En arrivant cet après-midi à 3h au musée Tjerval, les deux présidents souriaient largement, très décontractés, et Richard Nixon nous a même fait part de ses difficultés de s'adapter à la latitude islandaise et à ses 21 heures de plein jour sur 24. Il était tout à fait impossible d'aller se coucher, j'ai été au lit de minuit jusqu'à 8 heures, mais je n'ai pas dormi avant 3 heures du matin. Et pourtant j'étais au lit à minuit. Mais vous voyez, le président est en forme.
Le fuseau horaire, c'est comme la communauté.
Le président Pompidou voulait dire que les partenaires européens n'étaient pas toujours à la même heure politique. Bref, aujourd'hui, on n'a pas caché de part et d'autre les points de divergence, mais en conservant un sourire courtois.
C'est au moment du voyage de Pompidou à Reykjavik, donc en fin mai 1973, que les rumeurs sur l'état de santé du président vont commencer à se multiplier dans la presse. Alain Duhamel, vous étiez alors un jeune journaliste. Qu'est-ce que vous saviez à l'époque ?
C'était un sujet dont on parlait beaucoup entre nous et très peu à l'antenne. On savait que le président était souffrant. On le voyait à son visage, même si progressivement ça s'est évidemment accentué, mais dès le départ on avait bien vu qu'il grossissait, qu'il avait l'air fatigué, et on avait remarqué qu'il était devenu très irritable. Alors qu'au départ, il n'a jamais eu très bon caractère, mais enfin au départ il était plutôt de caractère quand même contrôlé, et là on voyait des pointes de nervosité. On sentait aussi que les entourages présidentiels, ministériels, gouvernementaux parlaient beaucoup de ça. Et nous, évidemment, on en avait des échos. À l'époque, à la fois la télévision et les radios étant ce qu'elles étaient à ce moment-là, surtout la télévision, disons le secteur public en particulier, qui était quand même encore... Je ne dirais pas une préfecture du ministère de l'Intérieur, mais enfin qui était assez autoritaire, et il y avait ce qu'on pouvait faire et ce qu'on ne pouvait pas faire. Donc à l'antenne, il n'y a pas grand-chose qui apparaissait. En revanche, on savait qu'il y avait déjà des spéculations politiques sur ce qui était susceptible de se passer. Autrement dit, c'était un drôle de climat, parce que on savait que c'était un grand sujet, peut-être le plus grand sujet de conversation entre politiques et leurs collaborateurs, le monde politique. Nous, on en parlait beaucoup entre nous, et ça débordait assez rarement à l'antenne. Et les journaux faisaient des allusions, mais ça n'allait pas très loin, en tout cas à ce moment-là.
Le 4 juin 73.
Des rumeurs plus ou moins alarmistes sur l'état de santé du président de la République circulent depuis quelques temps. Ces rumeurs, Henri Pajot, ont incité plusieurs commentateurs à demander une mise au point officielle.
Eh bien, ainsi, François pose tout d'abord une question sans ambiguïté. Est-ce grave? Est-ce bénin? Est-ce tout simplement une série noire, comme chacun en connaît, avec sa santé? Et fait ce commentaire. La situation a pris, depuis le voyage en Islande, un tour tel que, quelle que soit la réalité, la santé de M. Pompidou est devenue aujourd'hui un fait politique qui domine la vie politique et qui déborde sur la scène internationale. Les leaders de l'opposition ne sont pas tenus à la même réserve que les dirigeants de la majorité. Ainsi, M. Gaston Defferre, dans son éditorial du Provençal, fait de l'état de santé du président de la République un sujet de polémique. L'intérêt national, dit-il, est en cause.
Et que dit-on de tout cela à l'Élysée ?
Mais naturellement, dans l'entourage du chef de l'État, on est très sensibilisé par tous ces commentaires. Certains s'étonnent du déclenchement simultané de ces interrogations alarmistes. Mais il est bien évident que seul le président de la République décidera de la réponse à apporter à ces rumeurs. Un communiqué pourrait être publié prochainement, mais plus vraisemblablement, ce sera aux membres du gouvernement, lors du prochain Conseil, que le chef de l'État réservera ses réflexions. En tout cas, les rumeurs qui circulent n'ont en rien troublé le travail présidentiel. Aujourd'hui, M. Georges Pompidou s'entretiendra avec plusieurs personnalités, dont M. Serac.
Le président du CNPF n'a pas fait beaucoup de commentaires sur le fond de ses entretiens, mais il a tenu à préciser, à sa sortie de l'Élysée au micro de François Charpentier, qu'il avait trouvé le chef de l'État en très bonne forme.
Je l'ai trouvé en excellente santé, gai, souriant, détendu, et nous avons pu parler de toute une série de problèmes. Il possédait parfaitement ses dossiers.
Vous avez déjà rencontré le président Pompidou, vous l'avez trouvé changé ?
Je peux dire que, fondamentalement, j'ai trouvé avec toutes les qualités que je lui connaissais.
Même physiquement ?
Physiquement, je n'apprendrai rien à personne. Et je suppose que vous n'attendez pas de moi des révélations dans ce domaine. Mais la conversation que j'ai eue avec lui montre que c'est bien l'homme que j'avais l'honneur de connaître.
Et puis, ce soir, Pierre Messmer a révélé qu'il allait répondre à la question orale déposée ce matin sur le bureau de l'Assemblée nationale par le député-maire de Marseille, Gaston Defferre, question relative à l'état de santé du président de la République. Pierre Messmer a déclaré « On répond toujours aux questions qui nous sont posées, aux questions qui nous sont posées dans la forme habituelle par les parlementaires. »
Le 5 juin.
La santé du président de la République reste la préoccupation numéro un des commentateurs politiques. D'autant plus que M. Pompidou a décidé de réduire de nouveau certaines de ses activités.
Il s'agit exclusivement de ses activités de représentation à l'extérieur de l'Élysée. Plus d'activités représentatives donc, de réception où le chef de l'État se rendait essentiellement pour serrer des mains et honorer la réunion de sa présence. En revanche, le président de la République ne modifie en rien ses activités proprement politiques, comme les rencontres internationales au sommet. Il se rendra comme prévu à Bonn pour rencontrer le chancelier Willy Brandt et il recevra le président de la République italienne, M. Leone, en visite officielle à Paris. M. Pompidou n'a pas annulé non plus les cérémonies du 18 juin sur son agenda. À défaut de précisions officielles, ce que l'on peut tirer de ce nouveau calendrier du président pour les semaines à venir, c'est que, sans aucun doute, le chef de l'État est fatigué, indisposé, mais qu'il est essentiellement gêné par toutes les activités qui lui demandent des déplacements, de longues stations, debout, bref, par toutes les activités proprement physiques. En revanche, lorsqu'il se trouve derrière son bureau de l'Élysée, le chef de l'État poursuit ses travaux comme de coutume, avec un emploi du temps aussi chargé que par le passé. Et l'on peut même affirmer que M. Pompidou n'a pas changé non plus ses habitudes lorsqu'il reçoit des convives autour de sa table pour déjeuner.
Trois chefs d'État africains qui étaient reçus ce midi à l'Élysée l'ont d'ailleurs confirmé. Il s'agissait de Léopold Senghor, le président du Sénégal, d'Étienne Eyadema du Togo et de Jean Bedel Bokassa de la République centrafricaine.
Je l'ai trouvé en pleine forme, en très bonne forme. Je suis content.
Ce qui m'a frappé, c'est la vivacité de l'intelligence et la maîtrise des problèmes. Physiquement, il a peut-être un peu grossi, mais c'est un bon mangeur. Autrement, je l'ai trouvé surtout très vif et j'ai l'impression maintenant qu'il domine les problèmes.
Plus qu'avant ?
Plus qu'avant, j'ai l'impression, mais avec les Auvergnats, on ne sait jamais.
Vous écoutez France Inter, il est 20h. Interactualité, Ralph Pinto.
Bonsoir. On connaît le résultat du match aller de la première demi-finale de la Coupe de France de football. Avignon vient de battre Lyon 1-0, un but de Franz Edom.
Le 6 juin.
Le président de la République était en très grande forme ce matin à l'Élysée. C'est Joseph Comiti qui a employé ces termes et il a ajouté « Je souhaite au pays d'avoir tout le temps à sa tête quelqu'un qui ait sa lucidité ». Le président lui-même a d'ailleurs parlé de sa santé. « Quand les bornes sont franchies, il n'y a plus de limites. Il faut comprendre le respect de la vie privée et la bienséance ». Joseph Comiti a également ajouté devant les journalistes « Il serait sot de prétendre que la santé du président est parfaite, mais il a le droit d'avoir eu des indispositions. » Le chef de l'État est parti pour Cajar en fin d'après-midi. Il prendra quelques jours de repos et passera les fêtes de la Pentecôte dans sa propriété du Lot.
Toutes les polices de France recherchent celui qui est ce soir l'ennemi public numéro 1. À dire vrai, il porte déjà ce titre au Canada. Il s'agit du redoutable gangster Jacques Mérine, accusé d'assassinat au Canada et d'agression à main armée en France. Mérine comparaissait cet après-midi devant le tribunal correctionnel de Compiègne. très sévèrement gardé, il demande à être conduit au lavabo et une fois revenu dans son box, il met en joue le président avec un pistolet. Menaçant le magistrat, il gagne alors la sortie du palais de justice et s'engouffre dans la voiture d'un complice, non sans avoir tiré dans la rue sur un gendarme au volant d'une voiture. Écoutez le témoignage d'un collègue du gendarme.
Il a pris le juge en otage, il est sorti du palais avec le juge, il y a une voiture qui l'attendait, il s'est enfui dans la voiture. C'était un mec qui avait commis deux meurtres au Canada, puis il avait quelques, disons, bricoles dans le coin de Compiègne.
Ce soir, Mérine est activement recherchée. Eh bien, préférons à cette histoire de gangster un sourire féminin, celui de Brigitte Bardot. En effet, c'est au micro de Gilbert Picard de France Inter que Bébé a déclaré aujourd'hui « Pour moi, le cinéma, c'est fini ».
J'en ai assez un peu de faire du cinéma pour le moment. Je trouve qu'il y a d'autres choses à faire. Alors celui-là, je trouve que c'est une façon de partir en beauté.
Autrement dit, ce sont vos adieux au cinéma.
Ouais, je pense.
Vous savez qu'on vous regrettera beaucoup sur les écrans et tous les Français également.
Ben vous voyez, vous faites peut-être mon dernière interview de travail.
Puisque maintenant vous dites que le cinéma c'est terminé, donc après ça va être quoi? Ça va être les voyages, ça va être le repos, la lecture.
Ça va être la vie.
Au-delà du temps, de nos désirs et de nos peines. Oublie-moi, oublie-moi, je n'étais qu'un rêve. Oublie-moi, aime-moi.
Le 10 juin.
Depuis mercredi dernier, jour de son arrivée à Cajarc, M. Pompidou n'était pas sorti. Ce matin, le président de la République et Mme Pompidou ont assisté à la messe de Pentecôte dans la petite église du village. Il y avait beaucoup de monde autour de l'église et dans les rues avoisinantes. Beaucoup de monde, puisqu'aux touristes étaient venus se joindre de nombreux journalistes. Et leur présence n'a pas été du goût de M. Pompidou, qui n'a pas mâché ses mots lorsqu'un reporter lui a demandé s'il pouvait rassurer les Français sur son état de santé.
Si je ne suis pas sorti ces jours-ci, c'est à cause de vous. Vous m'embêtez.
On est
heureux
qu'il est là.
Ce qui m'amuse, c'est qu'il doit s'embêter toute la journée.
En ces temps troublés où bruissent les rumeurs d'élections anticipées, il y a deux personnes qui n'apparaissent pas dans les archives de l'INA, mais qui ont pourtant joué un grand rôle au cours de cette période auprès du président. C'est Pierre Juillet et Marie-France Garraud.
Alors, Pierre Juillet et Marie-France Garraud ont eu en coulisses un rôle très important. À mes yeux, ce n'est pas eux qui ont eu le rôle essentiel. Le rôle essentiel, c'est Édouard Balladur, secrétaire général de l'Élysée. Eux, c'était l'antenne politique, je dirais même l'antenne politicienne. Pierre Juillet, c'était les grandes analyses et l'aide à la décision politique, les conseils. Et comme il avait un caractère de cochon, quand ses conseils n'étaient pas suivis, il s'en allait. C'est le seul conseiller politique que j'ai jamais connu comme ça. Il partait, il allait voir ses élevages de moutons et il fallait le rechercher. Quelquefois, il faisait attendre 3 mois. En revanche, il était très influent. Mais c'était surtout même sur le fond des problèmes, selon que c'était au fond l'orthodoxie gaulliste. Je pense qu'il se vivait un peu comme le grand prêtre de l'héritage. Marie-France Garraud, c'était complètement différent. C'était une femme brillante, assez belle dans son genre, en tout cas en tirant le maximum de parti, hyper politicienne. Elle, c'est vraiment la cuisine. D'une certaine façon, Pierre Juillet, je ne dirais pas que c'était le salon, mais c'était le bureau de travail. Marie-France Garraud, c'était la cuisine. C'est-à-dire les petites phrases à imaginer, les rumeurs à entretenir, les erreurs volontaires à alimenter. C'était ce qui était sa grande spécialité, les formules assassines qui étaient reprises ensuite interminablement par les journalistes. Je pense que c'était quelqu'un d'extrêmement négatif pour l'esprit démocratique. Et Pierre Juillet, sur ce plan-là, n'étant pas lui-même très positif.
Mais partout le monde bouge, mais partout le monde éclate.
Au mois de juin, l'Express, pour la première fois, s'interroge avec prudence sur la santé du président et demande, comme de nombreux médecins en expriment le souhait, la publication d'un bulletin médical. L'Élysée se borne à faire savoir que le chef de l'État n'a pas eu, en raison de sa charge, la possibilité de prendre le repos rendu nécessaire par la grippe à rechute dont il avait été atteint cet hiver. Il n'assistera pas, en juin, au garden party du Sénat et de l'Assemblée nationale. Le président, lui, paraît plus goguenard qu'inquiet. Chaque fois que l'on me serre la main, j'ai l'impression qu'on me tâte le pouls. Avant un déjeuner de journalistes, il lance, ironique, « Chacun ses soucis. Nixon va être démissionné et moi je vais mourir. Passons à table. »
Il est 20h.
Le 22 juin.
Interactualité, Raph Pinto.
Bonsoir. L'IP vient de déposer son bilan. Les administrateurs provisoires de la société soulignent que cette démarche a été effectuée avec toutes les conséquences qu'une telle situation risque de provoquer quant à la poursuite de l'exploitation et au maintien de l'emploi. Ces administrateurs expliquent aussi leur décision. L'absence de production, l'impossibilité de livrer à la clientèle les produits finis amène donc la société à ne plus disposer d'aucune trésorerie pour faire face aux engagements pris. Reste maintenant à attendre la réaction des ouvriers qui observent depuis 3 jours la grève au travail. Ces ouvriers qui ont remis en marche l'usine pour, disent-ils, s'assurer un salaire de survie. Le président Pompidou a également parlé cet après-midi de sa prochaine rencontre avec Léonid Brejnev à partir de mardi prochain. Il est prévu 6 heures d'entretien tête-à-tête au château de Rambouillet. Le président de la République a expliqué aux journalistes qui l'accompagnaient à Bonn dans quel esprit se ferait cette rencontre de Paris.
Nous sommes l'un comme l'autre, je le crois très sincèrement, acquis à la détente en Europe et dans le monde. Et par conséquent, nous avons là un bon terrain d'action. Et nous sommes aussi acquis l'un et l'autre à une coopération franco-soviétique bilatérale importante, et par conséquent, là encore, nous aurons des choses à nous dire. Pour le reste, il dépendra à M. Brejnev de me raconter ses voyages, moi de lui raconter les siens. La vie des hommes d'État, n'est-ce pas, c'est une vie de globe-trotteur, comme on dit en franglais.
Bonne soirée avec France Inter.
Le 29 juillet.
Édition 13h. Et comme le dirait Sacha Distel...
La pluie tombe sur moi, et comme pour quelqu'un dont les souliers sont trop étroits, tout va de guingois, car toute la pluie tombe sur moi de tous les toits.
Oh, je pensais que le temps c'est un petit peu mauvais, c'est pas comme l'Espagne, que il y en a beaucoup de soleil, beaucoup de chaleur, alors c'est le mois de la vacances et tout le monde cherche la chaleur.
Moi, pas étonné, il pleut comme chez moi à Hambourg. C'est pareil.
Toute la pluie tombe sur moi, oui ben moi je fais comme si je ne la sentais pas.
Cet été 73, alors que Paris est sous la pluie, Pompidou, lui, part en vacances en Bretagne, où il doit préparer son voyage officiel en Chine, prévu en septembre prochain.
Voici un extrait de l'interview accordée à une équipe de Télé-Bretagne, conduite par Bernard Rivaud, directeur de l'ORTF.
Vous êtes installé ici à votre table de travail. Est-ce que vous avez apporté des devoirs de vacances, pourrait-on dire ?
Écoutez, regardez, il m'en est arrivé ce matin, il va repartir ce soir, il en arrivera d'autres dans la semaine, soyez tranquille, il y a encore la fin de la semaine.
Vous avez tenu des propos fort pessimistes il y a quelque temps.
Oui, on exagère. J'ai dit simplement qu'il ne fallait pas s'endormir et que la situation générale, que ce soit du point de vue monétaire, que ce soit du point de vue politique, que ce soit du point de vue de l'Europe, que ce soit du point de vue des rapports avec l'extérieur, était une situation qui, à bien des égards, était préoccupante parce que tout changeait. Je ne suis pas pessimiste par tempérament, mais je trouve absurde de se lamenter sans cesse et après ça déclarer que tout va bien, ou de croire que tout va bien.
Est-ce que vous profitez également de ce temps de vacances, Monsieur le Président, pour préparer votre voyage en Chine qui vous tient beaucoup
à cœur ? Un petit peu, je commence à me renseigner sur la Chine. Ce n'était pas jusqu'ici le pays sur lequel j'avais le plus de connaissances, évidemment. Alors, il me faut un certain temps pour m'y habituer, pour me préparer.
Et malgré cette préoccupation, il n'est pas trop difficile pour le chef de l'État de passer de bonnes vacances en Bretagne, quand même.
J'essaie de combiner les deux, et mon Dieu, la Bretagne m'y aide.
Le 11 septembre.
Pompidou 总统前来我国进行正式访问，这是中法两国关系中的一件大事。请允许我代表毛泽东主席
董必武代主席和中国政府向黄必度总统。
En septembre 73, il va y avoir un autre voyage important, c'est le voyage de Pompidou en Chine.
Monsieur le Président,
mais sur le voyage en Chine, il s'est passé ce qui ne cessera de se développer les mois suivants, c'est-à-dire que c'est moins le contenu des conversations et des discussions qui alertent et mobilisent que la façon dont le président se comporte, la question de savoir s'il a des gestes plus lents et plus hésitants, s'il a l'air de bonne humeur ou de mauvaise humeur. Je dirais que les journalistes politiques de cette époque se sont transformés en cliniciens amateurs. Ça devenait obsessionnel au fur et à mesure que c'était de plus en plus visible. Je précise quand même, parce que c'est quand même, je pense, très important pour comprendre cette période, qu'on voyait bien que Georges Pompidou était malade, et même on comprenait qu'il était très malade. En revanche, on n'imaginait pas un instant qu'il puisse y avoir une issue à court terme. Et, sauf des très proches de Georges Pompidou, mais ça a pris tout le monde par surprise. En revanche, dans le monde politique, c'était un grand sujet de conversation. Chez ceux qui se préparaient à être candidats, avaient envie d'être candidats, évidemment, c'était déjà devenu à ce moment-là une préoccupation permanente, c'est-à-dire qu'ils étaient obligés de penser en permanence à adapter leur stratégie et leur calendrier à ce qui se passait ou à ce qui éventuellement pouvait se passer. Et de ce point de vue, ça a vraiment été une drôle de période, si on peut dire drôle, pour un cas de ce genre. Et Georges Pompidou, il faut quand même le souligner, tout le monde l'a dit après, mais sur le moment, c'était quand même impressionnant. Faisait preuve d'une énergie pour se maintenir à flot qui était assez impressionnante, qui expliquait aussi ses mouvements d'humeur.
Je repars riche d'une ample et combien précieuse moisson d'amitié.
Le 17 septembre.
Une parenthèse iranienne pour le président Pompidou entre son départ de Chine ce matin et son retour en France prévu pour cette nuit à 2h30. Et là, Orly, il n'y aura aucun ministre pour accueillir le président de la République, et ce, à la demande de M. Pompidou lui-même. Pour l'heure donc, le chef de l'État est l'hôte à dîner du Shah d'Iran. Et avant ce dîner, une conversation tête-à-tête entre les deux hommes. Le président Pompidou est visiblement satisfait de retrouver le Shah d'Iran. Il l'a confié dans une déclaration exclusive à notre envoyé spécial Philippe Rochaud.
Je suis extrêmement content de pouvoir faire cette visite à Téhéran. Trop courte, bien sûr, trop courte, mais qui va être bien remplie puisque j'aurai quand même la possibilité d'avoir un entretien avec Sa Majesté, dont j'espère qu'il nous permettra, et j'en suis sûr d'avance d'ailleurs, de faire le tour de la politique mondiale, d'échanger nos idées, et je le ferai avec d'autant plus de cœur que je me rappelle le magnifique accueil que Leur Majesté m'avait réservé lors du voyage que j'ai fait ici, comme Premier ministre, dans une période qui est, pour les Français, était un peu agité, puisque c'était au mois de mai 1968.
Toujours de très nombreuses protestations à la suite des événements du Chili. En France, un arrêt de travail d'une heure entre 11h et midi à l'appel des syndicats CGT, CFDT et FEN. Il faut que le gouvernement français condamne le putsch de la junte militaire, ont demandé les organisations syndicales. Et puis un appel de la veuve du président Allende, un appel à l'ONU pour intervenir afin d'éviter une guerre civile. Enfin, une campagne pour que l'ex-président reçoive le prix Nobel de la paix 1974. Voilà, ce journal est terminé. Prochain rendez-vous d'information, 21h10.
Le 29 septembre.
Intersoir, Jean-Louis Burga.
Bonsoir. Sans conteste, c'est un succès pour les organisateurs de la marche sur Besançon. Les sympathisants aux ouvriers de l'IP étaient plusieurs dizaines de milliers, malgré la pluie. Sur place, notre envoyé spécial, Pascal Delannoy.
On n'avait jamais vu autant de monde à Besançon. Au rendez-vous fixé par les ouvriers de l'IP, plusieurs milliers de manifestants étaient exacts. Pendant 6 km, sous la pluie, ils ont marché, 2h30 de défilé, 2h30 de slogan.
Une évasion rocambolesque du palais de justice de Compiègne en avait fait le gangster français le plus recherché par la police. Il n'aura pas tenu longtemps, un commando de la brigade anti-gang lui a mis la main au collet hier soir vers 20h30 à Paris. Il s'agit de Jacques Mesrine. Et l'explication de cette seconde arrestation, c'est tout simplement que le jeune bandit n'a pas pu s'empêcher de reprendre du travail, entre guillemets, et que les policiers étaient persuadés qu'il était le chef d'un gang, un gang qui a attaqué deux banques jeudi dernier dans le 18e arrondissement. L'un des membres de la bande avait été arrêté après une fusillade, et c'est grâce à cette arrestation que les enquêteurs sont remontés jusqu'à Mesrine. Son repère a été retrouvé hier en fin d'après-midi, 88 rue Vergniaud, dans le 13e arrondissement à Paris. En une heure, la police cernait tout le pâté de maison. Mesrine n'a pas opposé de résistance, il a discuté quelques instants avec les policiers à travers la porte. Et lorsqu'il s'est aperçu qu'il n'avait plus aucune chance de fuite, il s'est rendu. Il aura donc été pendant près de 4 mois l'homme le plus recherché de France.
Le 5 octobre.
Tradition respectée, au Salon de l'Auto, le président de la République est venu inaugurer ce matin ce 60e show de l'automobile au parc de la Porte de Versailles à Paris. On raconte d'ailleurs que le président de la République prend un réel plaisir à se promener entre les stands des marques automobiles. Georges Pompidou a un faible pour les voitures, il ne s'en cache pas. À plusieurs reprises d'ailleurs, on l'a vu prendre le volant autour de ses maisons de campagne et même incognito dans Paris. Et vous vous en souvenez, il avait conduit lui-même son chauffeur au volant d'une R16 pour l'inauguration de l'autoroute Paris-Marseille. Ce matin, le président de la République a été accueilli par Jean Panhard et les patrons des grandes firmes automobiles au salon de la Porte de Versailles, Éric Gilbert.
Oui, et cette visite cette année a été un peu plus succincte que d'habitude. Le président de la République est resté un peu moins d'une heure sous les verrières du salon de l'auto, mais c'est comme monsieur tout le monde, au milieu du public, que Georges Pompidou a parcouru les stands. Honneur d'abord aux constructeurs français, les quatre grands, dans l'ordre Peugeot, Citroën, Simca et Renault. Comme tout un chacun, le président de la République s'est fait expliquer le fonctionnement du birotor, vous le savez, cette nouvelle révolution technique du quai de Javel. Arrêt traditionnel également chez Michelin. Michelin est une des rares firmes françaises à avoir une implantation internationale avec une tête de pont même aux États-Unis. Et bien sûr, le chef de l'État ne manque pas chaque année de prendre des nouvelles, de prendre un petit peu le pouls de la firme pour savoir si tout va bien.
Après avoir vu les images de votre visite au Salon 1974, je suis tenté de dire, une fois encore, cette année, le président de la République a inauguré le Salon de l'Automobile, parce que cela fait partie des tâches représentatives du chef de l'État. Pourtant, monsieur le président, au printemps dernier, vous aviez laissé dire que vous n'iriez plus aux inaugurations, aux cocktails ou autres manifestations de ce genre. Alors pourquoi aujourd'hui cette exception ?
C'est vrai, je n'aime pas beaucoup ce que le général de Gaulle appelait l'inauguration des chrysanthèmes. Et en effet, j'ai indiqué que je limiterais mon activité dans ce domaine au strict minimum. Pourquoi le salon de l'automobile ? Vous pourriez penser que c'est à cause de mon goût pour la conduite automobile que j'ai rarement l'occasion de satisfaire. Il y a un certain temps, les constructeurs avaient au fond envie de supprimer le salon. Ils trouvaient que ça leur coûtait trop cher. Or, l'industrie automobile est une industrie vitale, en France notamment, et le salon, s'il n'est pas forcément quelque chose de sensationnel au point de vue technique, est toujours important du point de vue de la propagande et au point de vue commercial. Alors, je suis intervenu et j'ai obtenu qu'on continue le salon. L'ayant obtenu, il m'était bien difficile tout de même de m'en abstenir aujourd'hui.
Monsieur le Président, on ne peut pas parler de l'automobile sans évoquer la pollution. En mars 70, j'ai entendu à Chicago votre discours sur l'environnement. Et là, appuyé par le président Nixon, vous étiez prononcé pour des solutions internationales et pour une morale de l'environnement.
Oui, il y a deux aspects. Il y a l'environnement, il y a la pollution. C'est pas tout à fait la même chose. Par exemple, supposer qu'on fasse de la cour carrée du Louvre un parking ou un parc de stationnement, ce serait absurde, n'est-ce pas ? Ce serait vraiment gâcher un paysage de pierre parisien, et il y en a d'autres. L'automobile ne doit pas s'étaler là où elle gâcherait le paysage, urbain ou pas urbain d'ailleurs. Il y a la pollution. On me dit qu'on a fait des progrès, que la preuve en est que la pollution atmosphérique à Paris est plutôt moins forte qu'il y a quelques années, alors que le nombre de voitures était beaucoup inférieur. Je crois qu'il faut faire un pas en avant et un pas sérieux. Mais je crois qu'on ne peut le faire qu'à l'échelon international. Et je l'ai d'ailleurs dit tout à l'heure à certains constructeurs étrangers qui se vantaient de leur réalisation. Car c'est un problème de prix. Il est évident que faire des voitures qui ne polluent pas, c'est faire des voitures qui risquent de coûter un peu plus cher.
Dans Paris, à vélo, on dépasse les autos. À vélo, dans Paris, on dépasse les taxis. Place des fêtes, on roule pas. Place Clichy, on roule pas. La Bastille est assiégée. Et la République est en danger.
Jacques Dutronc s'est trompé, les 600 millions de Chinois de sa chanson sont en réalité 703 260 000 à une unité près.
Le 6 octobre.
Ces statistiques sont fournies par Pékin, elles sont inquiétantes car elles apportent de l'eau au moulin des futurologues réunis à Rome. Ces prophètes du futur nous prédisent une fois de plus la fin du monde pour bientôt, cela à cause de la surpopulation, Gérard Dupagny.
Dans 50 ans, le désastre, la catastrophe écologique, ce que les savants appellent déjà l'éco-catastrophe, c'est la conclusion peu réjouissante du 4e congrès de futurologie qui vient de se terminer à Frascati, près de Rome. 150 savants du monde entier, 150 spécialistes du futur, se sont réunis pour nous prédire en quelque sorte l'avenir. Et l'avenir n'est pas rose, croyez-le bien. En l'an 2000, c'est-à-dire dans moins de 30 ans, nous serons 7 milliards sur notre planète, cela on le savait déjà, mais ce qu'on ne savait pas, c'est que dans une cinquantaine d'années, selon les prévisions les plus pessimistes, il y aura 30 milliards d'hommes sur Terre avec une moyenne de 15 habitants au kilomètre carré. Et alors, selon les futurologues, quelque chose de terrifiant devrait se produire, une sorte de fin du monde, il y aura des guerres, des épidémies, des cataclysmes qui anéantiront des peuples entiers. Il y aura à peine 200 000 survivants qui recommenceront à zéro pour commettre les mêmes erreurs.
Voilà pour l'essentiel des informations de la matinée. Nous allons quand même revenir avec Gilbert sur l'information concernant le Proche-Orient, car nous venons d'apprendre que des combats aériens opposent des avions syriens et israéliens au-dessus du Golan et du sud-est du Liban.
Oui, effectivement, et la situation semble assez sérieuse, puisque dans le même temps, la radio israélienne invite tous les habitants de Tel Aviv à se réfugier dans des abris. En tout cas, l'état d'alerte est déclenché et les appels sont renouvelés toutes les 15 minutes.
Israël a donné les raisons de cette mise en état d'alerte en disant que l'armée prenait ses dispositions en raison de mouvements de troupes égyptiennes et syriennes le long de la ligne de cessez-le-feu dans la région du Golan. Est-ce que vous avez eu confirmation de ce mouvement de troupes?
Oui, effectivement, Yves Mourouzi, mais vous savez, je crois que c'était un peu l'escalade dans ce domaine-là et chacun disait... Nous mettons nos troupes en état d'alerte parce que l'ennemi est en train de préparer lui aussi une attaque. Donc on ne peut pas dire finalement qui a commencé l'escalade.
Je crois que nous avons été coupés avec Beyrouth. Je vous rappelle donc ce que nous disait Philippe Rochaud, qu'un combat aérien mettant aux prises des appareils syriens et des appareils israéliens se déroule quelque part au-dessus du Moyen-Orient et que d'autre part, des mouvements de troupes sont signalés un petit peu partout aux frontières des pays engagés dans le conflit du Moyen-Orient.
Super. Guerre du Kippour, crise du pétrole, montée du chômage et inflation, les nuages s'amoncellent au cours de cet automne 73. Sans parler des conflits sociaux qui se multiplient et de toutes les manigances politiciennes qui émergent à la faveur du déclin de la santé du président. Pompidou ralentit les représentations publiques, mais ne peut échapper à la traditionnelle fête de Noël des enfants à l'Élysée. L'année dernière, c'était à la même époque que les premiers symptômes de la maladie étaient apparus. Officiellement, le président s'était enrhumé dans le train qui le ramenait de Cajar et il n'avait pu recevoir les vœux du personnel de l'Élysée. Commentaire de l'entourage, le patron est grognon, il essaye d'arrêter de fumer.
Ils étaient tous là, les invités du président de la République, 600 enfants, enfants des écoles, les meilleurs élèves et aussi les enfants du personnel de l'Élysée. Présenté par Daniel Gilbert, les enfants ont pu applaudir des équilibristes, un prestidigitateur et Sim.
Bravo !
c'est Guy Béard qui termina le spectacle, accompagné par le chœur des enfants. À l'issue du spectacle, le président de la République tint à s'adresser à ses jeunes invités.
Rassurez-vous, je ne vais pas chanter. Je sais que parmi les raisons qui vous ont amené ici, qui ont amené à vous choisir, il y a le fait que vous êtes de bons petits élèves. Bien. Et puis, il faut être de bons petits Français, hein. Alors, nous allons chanter, non pas « Vive la rose et le lilas », mais « Vive la France et les enfants de France ». Et bonne année à tous. Et maintenant, distrayez-vous. Le travail, c'est la santé, mais ne rien faire, c'est la conserver. C'est ce que vous allez penser pendant quelques jours.
Vous avez entre 6 et 12 ans et vous venez pour la première fois à l'Élysée assister à l'arbre de Noël.
Oui.
Et vous savez pourquoi on vous a choisi ?
Moi, c'est parce que j'ai pas de parents.
Moi, c'est parce que je travaillais bien.
Alors, pour la première fois, vous avez vu le président de la République.
Oui.
Quel effet cela fait-il ? Parce que vous l'aviez déjà vu, mais à la télévision.
Oui. Oui. Oui, parce que quand on le voit devant nous, on peut lui serrer la main.
Monsieur le Président, votre emploi du temps vous a permis de consacrer quelques instants aux enfants ?
Ben vous voyez, en effet, une distraction dans une vie qui en manque un peu.
Et Madame Pompidou, elle, a voulu distribuer les jouets aux enfants. Madame, est-ce que comme les autres années, c'est vous qui avez choisi les jouets pour les enfants ?
Ah oui, je les ai choisis avec la personne qui s'occupe de l'organisation du spectacle. Oui, oui. Ah, vous allez voir tout à l'heure.
Beaucoup de panoplies.
Oui, il y a beaucoup de panoplies. Il paraît que ça a du succès.
Françaises, Français, il y a un an, en vous offrant mes vœux pour l'année 1973, je vous disais que ce serait une année d'expansion exceptionnelle et de grands progrès dans divers domaines. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Les chiffres le prouvent et les observateurs sérieux les plus rigoureux le reconnaissent. Et pourtant, il faut admettre que l'année se termine dans une atmosphère moins sereine et que les perspectives sont plus sévères. Assurément, l'année 1974 risque d'être difficile. Et en tout cas, plus que tout, elle est incertaine. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, le gouvernement s'est bien gardé de prendre des mesures hâtives et inconsidérées, malgré les conseils et les reproches que nous distribuaient matin et soir certains qui n'ont pas de meilleur plaisir que de dire du mal de leur pays. Soyons résolus, et le ciel s'éclaircira. Soyons unis, et l'avenir nous récompensera. Françaises, Français, du fond de mon cœur, je souhaite que l'année 1974, malgré quelques bourrasques, vous apporte à chacune et à chacun, la joie à votre vie personnelle, familiale, dans vos projets. Bonne année, Française, Français. Bonne année et vive notre France.
Au cours du mois de janvier, le président Pompidou se rend à Poitiers. Françoise Giroux en fait le récit dans l'Express. Le podium a été abaissé pour qu'il n'ait que 3 marches à monter. Dès qu'il a terminé, il tombe dans le fauteuil qui lui est avancé et essuie longuement la sueur qui lui coule sur son visage. Poitiers achève d'inquiéter le monde politique. D'autant qu'un nouveau communiqué est publié une semaine plus tard, le 7 février. Le président est encore grippé. Pour la première fois, son médecin traitant, M. Vignaloux, signe ces quelques lignes laconiques. Le président de la République souffre d'une infection virale avec fièvre. Il devra garder sa chambre durant quelques jours, à son domicile privé, Quête Béthune. Quelques semaines plus tard, on annonce un remaniement ministériel.
Je pense que le remaniement de mars 1974, il a été provoqué par la détérioration de la santé, enfin de l'état de santé de Georges Pompidou. Évidemment, le symbole absolu, c'est que Jacques Chirac devient ministre de l'Intérieur. Jacques Chirac est ministre de l'Intérieur. Et alors là, tout le monde comprend très bien que c'est pour préparer une suite. Je ne dirais pas la suite, parce que il n'était pas sur le même rang que les présidentiables. En revanche, il était celui qui pouvait modifier le jeu à l'intérieur de la majorité. Alors on n'imaginait pas du tout à ce moment-là, évidemment, ce qui allait se passer les semaines suivantes. Mais on avait bien compris que Jacques Chirac, à l'intérieur, c'était le tacticien en chef du clan pompidolien à qui on donnait en réalité assez largement les rênes.
Et qui est à l'origine de ce remaniement ? Pompidou lui-même ou c'est...
C'est forcément Pompidou lui-même qui est à l'origine, parce qu'il était exténué, mais intellectuellement, il était parfaitement lucide. Il n'était pas affaibli intellectuellement. Et c'était quelqu'un qui était très autoritaire. Pierre Messmer avait beaucoup d'énergie, mais Pierre Messmer n'était pas un leader charismatique. Pierre Messmer n'était pas un ambitieux frénétique. Et donc, ça n'est pas lui qui menait le jeu.
Alors, dans la cour de l'Élysée, Alain Danvers, on attend toujours. Monsieur Messmer se trouve dans le cabinet du président Pompidou en ce moment et il n'est toujours pas sorti.
Toujours pas sorti, on attend toujours sous une neige de plus en plus abondante. Les flocons, tout à l'heure, étaient de la neige fondue, mais maintenant, ce sont des gros flocons qui commencent à tracer une place blanche devant l'Élysée. Effectivement, cette entrevue dure plus longtemps que prévu. On s'attendait à ce que ce soit une visite vraiment très courte de principe, que M. Messmer tende à M. Pompidou les feuillets sur lesquels il a marqué les noms de ceux qui seront ses nouveaux collaborateurs. Eh bien, on attend plus longtemps que prévu. Il y a maintenant 65 minutes, 1h05, que M. Messmer est entré à l'Élysée et il n'en sort toujours pas. Je crois que maintenant, ça ne devrait quand même plus durer très très longtemps. Après la sortie de M. Messmer, c'est M. Balladur qui, quelques minutes plus tard, devrait donner connaissance aux journalistes qui sont très nombreux et qui attendent dans la cour. Il devrait donner connaissance, M. Balladur, qui est le secrétaire général de l'Élysée, de la liste des nouveaux ministres du 3e cabinet Messmer.
Pompidou fait des courbettes et des entrechats avec des Chinois pompettes.
Quelques jours après le remaniement, Georges Pompidou envoie Messmer inaugurer à sa place l'aéroport Charles de Gaulle. Le président s'économise avant de partir en URSS, qui sera son dernier voyage officiel le 12 mars 1973. Le voyage a déjà été remis à plusieurs reprises. Le président avait peur de reprendre froid. C'est pour cette raison qu'on a choisi Pitsounda, sur les bords de la mer Noire, l'endroit le plus ensoleillé de toutes les Russies.
C'est en tout cas un aller-retour des plus rapides qu'effectue M. Pompidou sur les bords de la mer Noire à Pitsounda. Et dès son arrivée, il a rencontré M. Léonid Brechnev et les entretiens franco-soviétiques ont commencé. Il est actuellement en Géorgie, 3 heures de plus que chez nous, et nos envoyés spéciaux, Léon Zitrone et Joseph Poli, nous ont envoyé il y a quelques heures leur reportage par l'intermédiaire de la télévision soviétique. Le voici.
Eh bien, dès ce soir, dans la datcha de M. Brechnev à Pitsounda, les deux chefs d'État vont ouvrir leur dossier. Vous savez qu'il n'y a pas d'ordre du jour précis, mais l'on connaît, l'on devine les thèmes qui seront abordés par messieurs Pompidou et Brechnev au cours de cette troisième rencontre privée depuis le début de l'année dernière.
En ce qui concerne les sujets abordés, la presse française et la presse internationale avaient bien voulu nous les indiquer par avance. Par conséquent, nous nous sommes conformés à l'ordre du jour que vous nous aviez диктей.
Après le voyage en URSS, les rumeurs d'une élection présidentielle anticipée se font de plus en plus présentes dans la presse. On parle d'une candidature de Pierre Mendès France. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on est conscient que Pompidou ne finira pas son mandat.
Oui, au fond, depuis le début de l'année. À ce stade-là, on pensait quand même que ce serait Georges Pompidou qui, à un moment, démissionnerait pour raison de santé. On n'imaginait pas, je le répète, c'est très important pour comprendre cette phase-là, on n'imaginait pas qu'il y aurait brusquement un accident qui accélérerait brusquement les échéances. Mais on se disait au fond que ce septennat serait sans doute un quinquennat. C'est comme ça qu'on sentait les choses. Donc, alors là, pour le coup, on voyait très bien quand même s'affirmer trois hommes désignés, mais trois ambitions. Bon, il y avait celle de François Mitterrand, il y avait celle de Valéry Giscard d'Estaing, qui était perceptible. Et puis, tout le monde savait très bien que Jacques Chaban-Delmas commençait à faire des exercices d'assouplissement avant de sauter. Alors, on a avancé le nom de Pierre Mendès France, mais en fait, ça n'avait pas grand sens, parce que Pierre Mendès France, je le connaissais très bien, je le voyais beaucoup. Il n'a jamais accepté les institutions de la Ve République et il ne voulait pas être candidat à l'élection présidentielle. Et puis il n'était pas totalement à l'aise, on peut dire que c'est une litote, avec l'alliance qui était tumultueuse, mais qui existait à ce moment-là, communiste-socialiste.
Pierre Mendès France serait d'accord pour se présenter à nouveau à une élection. Quelle élection ? L'ancien président du Conseil de la 4e, qui était aujourd'hui l'invité de RTL, ne précise pas. Si les circonstances m'y conduisent, il est parfaitement possible que je sois candidat à telle ou telle élection, a expliqué Pierre Mendès France. Cela dit, hors micro, il a précisé qu'en aucune façon il ne s'agirait d'élection présidentielle. En tout cas, la nouvelle est intéressante, puisque après les dernières législatives, Pierre Mendès France avait plus ou moins laissé entendre que son état de santé ne lui permettait plus d'affronter des responsabilités politiques. Cela dit, PMF regrette l'atmosphère préélectorale qui sévit à l'heure actuelle dans certains milieux politiques. Il critique aussi M. Jobert, l'un de ses anciens collaborateurs. C'est un homme de grande valeur, reconnaît Pierre Mendès France, mais il se livre actuellement à un jeu de provocation vis-à-vis des États-Unis, un jeu qui nous prive de certaines possibilités. Les Américains ont intérêt à ce que cela s'aggrave avec la France pour obliger les autres pays européens à choisir entre Washington et Paris. C'est en tout cas l'opinion de M. Mendès France.
Au dernier Conseil des ministres, le 27 mars, le président peut à peine marcher, à cause d'une prétendue lésion bénigne. D'une voix voilée, il dit « Même si cela doit en embêter certains, je suis encore là pour 2 ans. » Il ne lui reste plus que 5 jours à vivre. Dans les états-majors, et tout particulièrement à l'UDR, c'est l'ébullition. Le 30 mars, le journal Le Monde rapporte que des membres importants du mouvement gaulliste plaident pour une démission du président.
Pour l'UDR, la seule hypothèse de travail dans laquelle nous devons nous placer, a dit Michel Debray, est celle du président de la République allant jusqu'au bout de son mandat. Cette précision s'imposait-elle ? C'est la question que Dominique Bressot a posée à Alexandre Sanguinetti.
Mais qui s'impose tout naturellement devant le frémissement de la classe politique que vous exprimez dans vos journaux depuis trop de temps. Il faut rappeler que les élections n'ont lieu que dans 2 ans.
Est-ce qu'on s'est inquiété de la santé du président au cours de ses travaux ?
Nous nous inquiétons toujours de la santé du président parce que nous l'aimons bien. Et chaque fois que je vous demande comment allez-vous, ça ne veut pas dire que je crois que vous êtes malade.
France Inter, les 4 tops, 8h.
Le 1er avril.
8h09. Il y a 2 heures maintenant, nous vous donnions donc cette information. Un ovni a été aperçu dans le bois de Vincennes. Il n'y est resté qu'une 15 minutes, 15 minutes au cours desquelles plusieurs témoins l'ont vu et ont signalé en tout cas sa présence à la police. À l'heure actuelle, sur la pelouse où s'est posé l'engin, à l'angle de la route du Bac et de la route Dompérignon, des traces sont encore visibles et l'endroit est gardé par la police, Thierry Bourgeon.
Oui, beaucoup de monde ici, des curieux bien sûr, mais aussi des passionnés qui prennent des photos, et puis les policiers du commissariat du 12e et les enquêteurs. Des enquêteurs qui ont, semble-t-il, découvert quelque quelque chose. On ignore quoi exactement. On sait seulement qu'un paquet a été emmené au Bureau national de la recherche scientifique à Paris. C'est un nouveau coup de théâtre dans cette affaire, une affaire qui devient de plus en plus crédible. La preuve, ce témoin qui se promenait ce matin non loin de l'avenue de Gravel.
J'étais en train de promener mon chien. Tout d'un coup, il tire sur la laisse et puis il se met à aboyer. Alors j'étais un peu inquiet. Enfin, je suis le chien et je vois un énorme fuseau, genre un gros cigare. Avec, moi j'ai vu deux pattes, hein. Il y avait peut-être deux de l'autre côté, mais ça je ne peux pas le jurer, et puis deux grandes antennes. Il y avait des hublots. Alors j'ai dit, tiens, c'est curieux, un avion qui atterrit là, c'est pas normal, quoi. J'ai regardé d'un peu plus près, je me suis faufilé dans les arbres, vous savez, parce que quand même on a peur, hein, dans ces cas-là.
Quoi qu'il en soit, une nouvelle question se pose maintenant, quel est cet objet qu'ont trouvé les enquêteurs, cet objet que vont examiner les ingénieurs du BNRS?
Déjà une réponse, ce n'est pas concorde. Bien évidemment, Thierry Bourgeon, vous intervenez dans le courant de ce journal si vous obtenez des précisions sur cette première découverte de la journée.
Le 2 avril, alors que personne ne peut imaginer la tragédie nationale qui interviendra en fin de soirée, tous les journaux ne parlent que de la nouvelle défection du président Pompidou.
Deuxième édition d'Intersoir, Patrick Pauvre d'Arvor. Bonsoir, le chef de l'État ne présidera pas le Conseil des ministres de demain après-midi. La nouvelle est officielle depuis 2 heures maintenant, mais on s'en doutait un peu depuis l'annonce de l'annulation de l'entretien que devait avoir le président Pompidou et le chef de l'État du Rwanda. Et puis hier, le chef de l'État n'avait pas regagné l'Élysée, mais son appartement du quai de Béthune et n'avait pas reçu, comme d'habitude, le lundi, le Premier ministre. Pierre Messmer va donc présider demain le Conseil. Ce n'est pas la première fois. Il l'avait déjà fait en février 73, alors que le président Pompidou était grippé. C'est l'article 21 de la Constitution qui autorise cette délégation de pouvoir. Il est bien évident que la santé du président a été le sujet de conversation numéro un des députés et sénateurs, dont c'était la rentrée aujourd'hui. Cette ouverture de la session de printemps aura été bien courte, un petit quart d'heure à peine. Un sourire quand même dans l'actualité, la première cigogne de la saison est arrivée. Elle venait d'Afrique et s'est posée à Langon dans la Gironde, une brève escale avant de repartir pour l'Alsace. Voilà donc pour le premier signe tangible de l'arrivée du printemps. Deuxième signe, l'orage qui vient d'éclater sur Paris. Un orage qui ne doit pas arranger la circulation autour de la capitale. Le trafic de retour des vacances de printemps est en effet beaucoup plus intense qu'on pouvait l'imaginer. Alors tout de suite, le point de la circulation de Rosny-sous-Bois, Philippe Roy.
Bien d'abord dans la région parisienne, sur l'autoroute du Soleil, le bouchon s'est allongé. Il s'étend maintenant des périphériques jusqu'aux pistes d'Orly, c'est-à-dire sur 12 km. D'autre part, c'est
merci à Alain Duhamel. Prise de son, Lucien Lefebvre et Antoine Espel. Mixage, Claire Levasseur. Documentation, Annelise Signoret et Corinne Chauvel. Archivina, Pierre Pinault. Chargé de programme, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Johanna Bedeau. C'était 1974, Pompidou est mort. Un documentaire de Christelle Le Polothèque réalisé par Anne Fleury. À suivre, la disparition.